Bonsoir, Michel Murator, nous nous retrouvons pour un alter-regard. Un alter-regard sur le théâtre. Au mois de juillet, j'étais à Avignon et j'ai fait de belles rencontres que je vous propose de partager. Julie Timmerman, donc une de mes rencontres intéressantes à Avignon, je vous propose de partager. Julie Timmerman, bonjour, merci d'avoir dégagé du temps, c'est pas simple à Avignon. Est-ce que vous pouvez donc vous présenter ?
Oui, bonjour. Alors, moi je suis directrice artistique de la compagnie Idiomécanique Théâtre. Voilà, je suis comédienne, autrice, metteuse en scène et j'ai monté cette compagnie en 2008. Et depuis 2016, je me suis mise à écrire. Donc, nous en sommes à trois spectacles avec la même équipe d'acteurs, la même équipe technique, artistique, Un démocrate, Banana Sun Kings et aujourd'hui Zoé.
Donc, ça, c'est les pièces qui sont présentées à Avignon. Parce que vous m'avez dit qu'il y en a quatre, donc il y en a quatre qui sont présentées en ce moment à Avignon.
Alors, Zoé et Un démocrate sont présentés à Avignon. Petite Zoé est présentée exceptionnellement pour deux représentations ouvertes au public. Et la quatrième, en fait, c'est L'affaire Rosaline Franklin, qui n'est pas une pièce de moi, qui est une pièce d'Elisabeth Bouchaud, directrice de La Reine Blanche, et qui se joue à La Reine Blanche Avignon actuellement, voilà, que j'ai mise en scène.
D'accord. Alors, c'est là, vous venez tous les ans à Avignon. Que représente pour vous Avignon? Pourquoi vous venez à Avignon, en gros?
Le Festival d'Avignon, c'est un grand marché. C'est là où les compagnies viennent vendre leurs spectacles, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est grâce aux ventes des spectacles que la compagnie peut continuer à fonctionner et évidemment montrer les spectacles à un public le plus large possible. Nous, en plus, on fait aussi des petites formes, des formes légères de spectacles qu'on peut tourner dans les villages, qu'on peut tourner en décentralisation. Donc on a vraiment une grande mission dans la compagnie de tourner un maximum dans toutes sortes de conditions pour pouvoir montrer les spectacles au public le plus large possible et le plus divers possible.
Donc, à part que bon, c'est un marché, moi je dis toujours Avignon, on vient acheter ou vendre, ou les deux. Mais donc, à part ça, pour vous, que représente Avignon? Vous êtes jeune, vous n'avez pas connu la belle époque d'Avignon, mais quand même, derrière, il y a quand même tous ces mythes des anciens qui ressortent dans votre...
Bah vous savez, à Avignon, il y a le in et le off, hein, donc c'est pas du tout la même philosophie. Dans le off, on joue dans des lieux qui sont quand même équipés, avec une équipe. Voilà, on est quand même dans des conditions qui sont pas mal, mais forcément, les spectacles sont difficiles à monter parce qu'il y a 8 spectacles qui s'enchaînent dans la même salle. Donc voilà, c'est quand même assez éprouvant pour nous. Mais en même temps, c'est le lieu où on vient rencontrer le public. On a un public qui nous suit depuis des années, des vrais passionnés de théâtre, donc ça c'est fantastique. On vient se faire connaître aussi de la presse et puis des programmateurs qui peuvent donc choisir les spectacles pour la tournée. Avignon est une ville magnifique qu'on aime beaucoup et c'est très facile d'aller d'un lieu à l'autre voir des spectacles. Donc on aime beaucoup venir et en même temps c'est extrêmement éprouvant et toutes les compagnies s'en sortent avec des dettes qu'elles espèrent rembourser par la vente des spectacles. Donc vous voyez c'est compliqué. Surtout que là, tous les prix ont augmenté. Les prix des lieux, des théâtres en location, les prix des appartements pour l'équipe, absolument tout a augmenté. Et donc, je vous avoue que ça devient de plus en plus difficile de venir à Avignon.
Et vous venez d'où alors? Parce que vous êtes originaire d'où? Parce que moi, j'avais vu qu'il y a une des pièces qui était représentée à Paris récemment. Mais sinon, vous venez d'où?
Nous, on est de la région Île-de-France. La compagnie est basée en Essonne.
D'accord. D'accord. Et donc, mais après, pour les représentations, vous allez là où on vous sollicite?
On va partout. Voilà, on a des programmateurs aussi qui viennent du monde entier. Donc, il est possible qu'on tourne même à l'étranger. On a tourné à Barcelone, au Festival Oui, le Festival de théâtre en français de Barcelone. Et puis, bon, mes pièces ont une reconnaissance qui va au-delà de la France parce qu'elles sont éditées en France chez C&F Éditions. Mais elles sont également traduites dans d'autres langues. Elles sont éditées en Italie chez Editoria Spettacolo. Elles sont éditées en Argentine chez Marea. Elles ont été traduites en tchèque voilà, par un festival de théâtre français traduit à Prague. Voilà, elles sont également traduites en catalan, donc, puisqu'on a joué à Barcelone, en anglais. Voilà.
Et donc on peut acheter, si on n'a pas l'occasion d'aller au théâtre, on peut acheter le livre, la pièce, quoi, mais en livre.
Voilà, exactement. Il y a beaucoup de spectateurs en sortant du spectacle qui achètent le livre parce qu'ils ont envie de relire la pièce ou de l'offrir à quelqu'un. Et donc, il suffit d'aller sur le site de C&F Éditions.
D'accord. Alors, que c'est pas la première année que vous venez à Avignon, je suppose. C'est pas la première année que vous venez à Avignon. Vous pouvez me citer ce qui a été déclencheur, un passage à Avignon qui a déclenché chez vous un contact, une idée de... Voilà.
Mais je suis venue à Avignon hors saison avec ma mère. Il pleuvait, il n'y avait personne dans les rues. Je lui ai dit, c'est ça le festival d'Avignon. Je ne pouvais absolument pas imaginer ce que c'était, cette folie dingue pendant le mois de juillet. C'est le plus grand festival du monde parce qu'il dure 3 semaines et demie. Donc c'est vraiment un mois avec les montages et tout ça, un mois dans les lieux, avec énormément de public, énormément de choses qui se passent, des conférences. Il n'y a pas que des spectacles, hein, y a beaucoup, beaucoup de choses. Moi, le déclencheur, c'est simplement que, comme je vous disais, c'est très difficile de faire venir les programmateurs à Paris, même à Paris. Ils ont du mal à venir, même quand on va en tournée, parfois ils habitent à côté, mais ils ont autre chose le soir où on joue, bon, c'est compliqué. À Avignon, au moins, ils viennent pendant une semaine et ils peuvent voir énormément de spectacles. Donc Avignon s'impose quand on est une compagnie.
Et donc, vous les trouvez, les programmateurs, ils passent comme ça, vous êtes prévenus avant, comment ça se passe concrètement ?
On a une chargée de production-diffusion qui s'occupe de travailler la question quelques mois avant. Voilà, elle les prévient qu'on joue à Avignon. Et puis parfois, ils réservent. Parfois, ils viennent comme ça. Mais enfin, en général, ils réservent avant, oui.
Alors, est-ce que vous avez... Donc là, vous me disiez, l'idée, c'est de pouvoir partir en tournée avec les pièces, enfin, une ou les quatre pièces. Bon, quatre, vous n'aurez pas une tournée avec les quatre, je suppose. Mais au moins, pouvoir partir en tournée après. Donc, l'idée, c'est... Après Avignon, qu'est-ce qui se passe, en gros ?
Après Avignon, donc absolument, l'idée c'est de tourner tous les spectacles. Je sais que l'affaire Rosaline Franklin, c'est pas ma production, donc j'ai que des échos, mais des échos extrêmement positifs. Je sais que ça va tourner, ça marche très bien. Un démocrate tourne depuis 8 ans, c'est la 8e année. Alors c'est la 5e fois qu'on fait Avignon avec un démocrate, et c'est la 8e année où on le joue. Il a été écrit en 2016, donc on espère que ça va continuer à tourner. Zoé, la nouvelle création de la compagnie, et Petite Zoé, donc c'est un diptyque, hein, Zoé, Petite Zoé. Voilà, qui aussi devrait tourner, donc, et Banana Sun Kings qui s'est joué à la scène nationale de Maubeuge là, en mai et qui va peut-être connaître un second souffle. Donc tous les spectacles devraient continuer à tourner.
Oui, et vous avez donc des contacts déjà pour préparer après ?
C'est à l'automne qu'on a les répercussions d'Avignon, donc les professionnels viennent, parfois on peut discuter un peu avec eux, mais souvent ils sont très pressés, donc c'est à l'automne qu'on les rappelle, qu'on reprend les contacts et qu'on sait un peu la tournée qui va pouvoir avoir lieu.
Oui, il faut 6 mois pour préparer, quoi, en gros. En gros, il faut 6 mois pour préparer une tournée, avoir
Oui.
Bien, et là, ces 4 pièces, bon, elles tournent, c'est bon. Vous avez vos projets, d'autres pièces, d'autres livres.
Jusqu'à maintenant, j'écris. J'aimerais aller chercher d'autres pièces écrites par d'autres. Donc, je lis beaucoup de choses en ce moment. Et puis, j'ai un projet autour de la figure d'Orwell, qui est méconnue. On connaît 1984 et la ferme des animaux, mais on ne connaît pas sa vie qui est ahurissante. Et puis, projet d'une adaptation de film aussi. Voilà, je n'en dis pas plus.
Et sinon, vous êtes donc dans la région parisienne, disiez, et vous avez un théâtre, disons, si des Parisiens, là, écoutent, ils peuvent vous trouver où, dans la région parisienne ?
Alors, jusqu'à maintenant, on a beaucoup joué à la Reine Blanche, et donc cette année au Théâtre de Belleville. Mais on n'a pas de lieu de prédilection, c'est-à-dire qu'on sollicite toujours différents lieux et on voit ce qui est possible en fonction des calendriers.
Eh bien, merci beaucoup Julie, et puis à l'année prochaine pour d'autres pièces.
Merci beaucoup.
Encore à côté sur. Alors j'ai croisé Cécile Pillot et Thierry Churas dans les rues d'Avignon. Donc voilà, je vais leur demander de se présenter.
Eh bien bonjour, je suis donc Cécile Pillot et je fais partie de la compagnie Miranda depuis toujours. Et depuis que nous avons le Théâtre de la Cité, je m'occupe de faire la programmation avec Sylvia Scanton-Burlot. Je suis spécialisée dans le jeune public, le tout petit, mais je travaille aussi sur la programmation tout public.
Et Thierry ?
Thierry Suras, bonjour, le directeur de la compagnie et du théâtre. J'essaie de coordonner et l'artistique et l'administratif.
Vous pouvez présenter le Théâtre de la Cité, donc c'est à Nice, dire où il est, comment, voilà, tout ça.
Alors le Théâtre de la Cité est aux 3 rue Paganini à Nice. C'est un théâtre de 256 places qui a la particularité d'être géré par une compagnie de théâtre professionnel qui s'appelle la Compagnie Miranda, ce qui est assez exceptionnel. C'est assez peu courant qu'une compagnie puisse avoir la chance, enfin s'être donné la chance d'avoir son propre théâtre, mais pas pour elle seulement, pour aussi accueillir évidemment beaucoup d'autres artistes.
Et du coup, c'est un lieu qui vous appartient ? Enfin, oui, qui vous appartient, vous louez, vous avez des subventions, comment ça se passe ?
Alors,
comment on finance un lieu ?
Alors c'est toujours la question, c'est comment on finance un lieu, comment on finance une programmation. Mais nous, on a cette chance d'être des artistes, ce qui fait qu'on a des liens particuliers avec les autres artistes. Donc on est à la fois dans un circuit, j'allais dire courant, d'achat, de vente, de recettes, et en même temps dans un lieu de collaboration. Parce que beaucoup d'artistes nous demandent la salle aussi pour venir tenter leur première série de représentations. Ce qui fait qu'on arrive à avoir une programmation de valeur. On est soutenu par les partenaires idoines.
Institutionnels.
On n'a pas d'argent à la programmation. Donc, en fait, le but, c'est de faire en sorte qu'on puisse décider ce qui va marcher pour nos spectateurs. Ce qui fait que la programmation est assez hétéroclite. C'est un magnifique éventail de plusieurs couleurs qui peut permettre d'attirer des spectateurs différents. En score, on est à 35 000 spectateurs, ce qui est colossal hein, sur la région niçoise.
Et oui, justement, ma question, c'était aussi par rapport aux autres théâtres. Alors, bon, on parle du Théâtre de Nice, qui n'a plus de salle. Enfin bon, c'est un peu le gag. Mais voilà, par rapport... Plein d'autres petites troupes, théâtres. Comment vous vous situez par rapport à cela ?
Bah écoutez, nous, nous ne sommes pas en concurrence du tout avec les autres. Nous, nous essayons de faire de notre mieux pour proposer des spectacles de qualité que nous avons, pour l'extrême majorité, vus. Et bien évidemment, on fait aussi confiance à des artistes qui sont en création. Et ça, c'est une de nos particularités, de faire aussi des résidences. Donc si vous voulez, par rapport aux autres théâtres, nous savons évidemment ce que les autres font, mais je crois que sur Nice, nous avons chacun nos particularités. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de proposer un éventail, comme disait Thierry Suras il y a un instant, très ouvert, afin que tout le monde puisse trouver quelque chose qui lui plaira au Théâtre de la Cité. Donc nous ne sommes pas en concurrence, nous sommes en complémentarité, si vous voulez, par rapport aux autres salles.
Voilà, et vous avez des contacts qui vous permettent, on vous disait que vous accueillez d'autres salles, d'autres troupes aussi, donc il y a des liens avec d'autres troupes qui vous permettent d'avoir ben, justement cette singularité.
Mais que peut apporter de différent une compagnie professionnelle de théâtre par rapport à d'autres salles ? C'est justement ça, ce travail complémentaire, cet imaginaire qu'on va goûter qui est différent, cette connaissance du travail de chaque artiste et donc de quel spectateur serait à même de recevoir. Pour donner un ordre d'idée, vous avez parlé du Théâtre de Nice, mais les chiffres sont faussés par la jauge de la salle. C'est à peu près le même nombre de spectateurs que le Théâtre de Nice, le Théâtre de la Cité. Donc c'est pas une petite salle, c'est une salle moyenne, mais avec des spectateurs assidus parce qu'ils savent qu'ils peuvent nous faire confiance puisqu'on est des artistes.
D'accord. Alors, je vous ai croisé dans les rues d'Avignon. Je disais, que représente pour vous Avignon ? L'image, le mythe d'Avignon, je ne sais pas si on peut le dire comme ça.
Alors, je crois que pour moi, bien évidemment, c'est d'abord un très grand plaisir d'être ici parce qu'on côtoie un nombre d'artistes et de spectateurs et que pour moi, c'est vraiment un endroit où on va parler avec des gens qu'on ne connaît pas, où il y a cette espèce de mur de silence qu'on a dans la société de tous les jours, qui se brise, et on parle avec tout le monde, on échange, on a des points de vue, on interagit. Ah mais moi j'ai vu ça. Déjà, moi, pour moi, personnellement, c'est vraiment ça qui est vraiment très important. Après, d'un point de vue plus professionnel, c'est la possibilité, en un temps donné, dans un périmètre donné, d'avoir la possibilité de découvrir des artistes. Alors des artistes qu'on suit, dont on va voir les nouvelles pièces, mais aussi faire des découvertes au détour d'une discussion avec un spectateur, au détour d'un théâtre, au détour d'une rue, avec quelqu'un qui va me convaincre avec son tract. C'est vraiment ça, c'est vraiment un moment d'échange et un moment de grande liberté.
Et pour vous, Thierry ?
Pour la plupart des choses, la même histoire, si ce n'est en plus, parfois trouver des collaborations futures.
Oui, j'allais dire, vous avez parlé de résidence d'artistes, ça vous est arrivé de rencontrer ici des artistes que vous avez après accueillis en résidence ?
Oh, très souvent. Et de la même manière, Alain, puisque nous sommes des créateurs, nous aussi, hein, là nous sommes avec une pièce mise en scène par Irina Brooke, mais...
Mais, j'en ai entendu parler.
J'espère en bien. Mais pas que cela. C'est-à-dire qu'on a notre création, nos créations propres, nos propres mises en scène. Donc cet échange est double. Parfois, on va travailler à un endroit improbable. Là, on avait monté La Délicatesse il y a 2 ans. On est allé dans la banlieue parisienne pour créer Les Lumières. Donc c'est des gens qu'on connaît ici, tout doucement. D'autres viennent chez nous, des tas de... Je sais que le domaine des murmures aussi qui a été monté s'est répété 1 semaine à 10 jours chez nous parce qu'il n'avait pas de salle. Donc c'est un échange artistique et humain, profondément humain. C'est ce qu'on oublie. Avignon, c'est humain.
Et donc dans la programmation, que vous retrouvez des pièces que vous avez vues ici ou vous avez rencontré les auteurs ici ?
Oui, depuis que nous avons le Théâtre de la Cité, donc depuis 2010, Sylvia et moi... programmons des pièces pour lesquelles nous avons eu des coups de cœur ou qui nous ont semblé vraiment très intéressantes d'amener jusqu'à Nice. Donc en fait, pour nous, c'est un passage obligatoire à Avignon parce qu'en fait, on veut absolument avoir notre rôle de relais régional par rapport aux artistes et de proposer des pièces qui peut-être ne viendraient pas dans le Sud-Est et qui viendront au Théâtre de la Cité. Donc effectivement, chaque année, nous avons des artistes que nous sélectionnons, que ce soit en jeune public ou en tout public, et qui sont programmés chez nous.
Alors, cette année, par exemple, vous avez vu des pièces. Alors, on dit que pour faire une programmation, il faut 2 ans. Donc, les pièces que vous avez vues cette année, ce n'est pas la programmation là qui est faite, ce sera 25-26.
Voilà. Alors, nous, ça peut nous arriver que ce soit dans l'année en cours, parce que le Covid nous a appris à faire par semestre. On travaille par semestre, donc on se laisse toujours des petites possibilités de programmer sur la saison en cours. C'est assez peu commun, mais nous, on se laisse cette possibilité.
Alors, beaucoup de cœur à tous les deux cette année.
Alors, sur cette année, moi, j'ai vraiment adoré Michel, doit-on t'en vouloir d'avoir fait un selfie à Auschwitz, qui traite de la dangerosité des réseaux sociaux pour les adolescents. J'ai aussi beaucoup aimé La raison du plus fou Diderot versus Rousseau avec Grégory Baquet. Et là, nous travaillons sur la possibilité d'accueillir Moby Dick. Nous travaillons sur la possibilité d'accueillir du domaine des murmures. Nous travaillons sur la possibilité d'accueillir les héroïdes au Théâtre 11. Enfin, tout se fait en ce moment. Et alors, est-ce que ce sera pour cette saison ? Est-ce que ce sera pour la saison prochaine ? Là, nous sommes très patients. En règle générale, quand nous avons vraiment un coup de cœur, nous faisons tout pour réussir à l'avoir, autant que faire se peut, évidemment, sur la saison d'après, ou peut-être encore celle d'après, parce que des créations ont une longue vie. Hein. Nous, notre Don Juan et les clowns a une vie depuis 10 ans. Donc, on sait que nous sommes patients.
Mais ça, c'est important parce qu'on a l'impression qu'on est ici, on voit des pièces et qu'après, c'est fini immédiatement. Alors, Thierry, vos coups de cœur et puis la réponse à mon
attention. Alors, je suis malheureux parce qu'elle a pris tous mes coups de cœur, Cécile.
Avant. Si ce n'est pas... Mais non, mais il faut amener aussi.
Oui, mais si par tendresse, Ring, qui a été monté aussi en coproduction avec le théâtre dans lequel on a joué, le Théâtre de l'Œuvre. À Paris, on a joué La Délicatesse pendant 4 mois au Théâtre de l'Œuvre. Et donc, forcément, il y a ce lien qui s'est créé. On est allé voir et c'est formidable aussi. Donc, puis d'autres. Et puis, on découvre des gens même qui sont de Nice. Moi, je n'ai jamais eu le temps de voir Mélissa Pratt et je vais y aller, je ne sais pas encore, j'y vais la semaine prochaine, enfin là, cette semaine qui vient. Donc, vous voyez, ce qui est dingue, c'est qu'à Avignon, on peut voir même des gens qui sont vos voisins.
Et alors, sur la programmation qui va arriver, là, vous commencez en septembre, comme tout le monde, vous avez donc 3 mots sur la programmation. Et puis, des pièces que vous avez glanées, je dirais, à Avignon ou pas ?
Oui, alors on va ouvrir notre saison normalement le 27 septembre et on va commencer dès le 28 avec un spectacle qui nous avait beaucoup plu avec Karine Dubernet. Car c'est vrai qu'au Théâtre de la Cité, nous avons aussi pas mal de spectacles d'humour parce que effectivement les artistes adorent venir chez nous pour roder leur spectacle. Enfin, roder, c'est pas très joli, pour faire leur première et pour tester le spectacle. Donc on va ouvrir avec Karine Dubernet. Et puis ensuite, on va recevoir Arnaud Maillard qui va venir avec son spectacle que je regarde le 12 octobre. Donc nous avons effectivement tout un tas de spectacles. Là, je ne peux pas vous faire parce qu'il y en a déjà, j'en vois, il y en a déjà presque une trentaine. On va recevoir aussi BP Zoom avec lequel on avait déjà fait un très gros succès la saison dernière. Et puis ensuite, il y aura le deuxième semestre où là, on espère avoir Moby Dick, on espère avoir à qui puis-je penser, à La Raison du Plus Fou. Voilà. Là, c'est en train de se faire pour le deuxième semestre.
Alors Thierry, comment vous dosez la création et les spectacles que vous, entre guillemets, vous achetez, c'est comme ça qu'on parle. Hein. Comment vous dosez ça ? Parce que si vous faites que des spectacles, il vous reste du temps pour la création ?
Alors, vous voyez, on est les plus mal lotis, parce qu'avoir une salle, on pourrait penser qu'on est dans une liberté absolue, mais d'abord, il y a une nécessité de rentabilité, parce que c'est aussi une affaire financière, et secondement, une envie de contenter le spectateur. Or, si on ne jouait que nos pièces, nos créations, oui, ce serait intéressant pour nous, mais pas pour le spectateur. Donc, on en est là. Alors, Cécile ne dit pas tout, parce qu'on n'a pas encore signé tout à fait toute la saison, donc on est prudent, il y a une forme de superstition de mise. Mais... oui, nos créations vont être là. Alors, l'an prochain, je vous l'annonce, on ne sait pas encore quand, ça date de 3 jours, vous voyez. David von Kinos a laissé, après 2 ans et demi de demande, les droits pour Charlotte. Charlotte est sans doute l'un des plus beaux textes que j'ai jamais lu. Et voilà, ça date de 3 jours. Donc, même dans la saison, on ne sait pas quand on va le placer tout à fait, parce qu'il faudra maintenant se mettre en route dans la production, dans la créativité. Mais un créneau est laissé pour la compagnie, ça c'est certain, et puis pour Charlotte et pour David von Kinos.
Eh bien, je vous remercie tous les deux. Et puis, ben, bon spectacle à Avignon. Et puis, sans doute, au Théâtre de la Cité. À bientôt.
Accord à côté sur.
Alors, à Avignon, dans la rue, j'ai croisé Vincent Brochier, et que je vous propose d'entendre. Bonsoir Vincent,
bonsoir,
merci.
Alors,
vous pouvez vous présenter et puis présenter la structure déjà.
Oui, alors moi je suis Vincent Brochier, je suis le secrétaire général d'Antéa, le nouveau théâtre d'Antibes qui fête sa 12e saison, assez neuf. Et mon boulot en gros consiste à faire en sorte qu'il y ait du monde sur la scène et du monde dans la salle. C'est-à-dire que pour ça, je fais la programmation avec Daniel Benoît, le directeur, et puis je m'occupe de la communication et de la billetterie et de l'accueil des artistes, des rapports à l'artistique. Et c'est cette combinaison qui doit nous permettre, heureusement pour tout le monde, je ne fais pas de technique, mais c'est cette combinaison entre la billetterie, la communication et la programmation qui nous permet d'avoir une des salles comme on aime, pleines.
De remplir la salle.
Et on est très content puisque là, on sort de la campagne d'abonnement pour la saison qui vient, qui commencera en septembre, et qui a commencé en fait avec une première date avant-hier avec Yuri Bonaventura, mais qui commence vraiment en septembre, et on a 15 200 abonnés, et ce qui est un record absolu, et je vous assure que c'est conséquent. On a vendu 120 000 places, on a dû rajouter 25 000 places, 25 représentations supplémentaires pour essayer de trouver des solutions pour les spectateurs en fonction de leur choix, puisqu'on a quand même 250 représentations de 78 spectacles, ce qui n'est pas peu dire, avec qui occupe une grande salle de 1 200 places, modulable à 700, mais 1 200 places en général, et puis une petite salle qui, elle, fait 200 places, et où on peut enlever les gradins et arriver jusqu'à 350.
Voilà, et c'est donc du coup, remplir la salle, enfin, c'est quelque chose d'exceptionnel d'arriver à faire 1200 personnes sur toutes les représentations. Et du coup, comment la programmation, comment elle est construite un peu rapidement, bon, on n'a pas 2 heures, hein, on recommencera, pour justement faire que tout le monde y trouve son compte.
Alors, justement, ça c'est toute la difficulté et tout l'intérêt d'ailleurs de la chose, de l'exercice. exercice. En effet, on est très content, on remplit à 92% à l'année, donc c'est un très très beau score, hein. Ça en fait le premier théâtre de province de France, hein, c'est certain, dans une commune de 77 000 habitants, c'est très bien, il y a un grand bassin de population autour, hein, Nice, Cannes, et Grasse et la RPI, mais et toute la difficulté est de trouver le moyen de composer une programmation qui plaise de façon assez large, et pour ça, avec Daniel Benoît, on a inventé un système d'abonnement qui consiste en 5 enveloppes. Les spectacles sont classés dans 5 enveloppes, je vais vous expliquer ça en une minute. Il suffit que le spectateur prenne un spectacle au moins par enveloppe pour avoir 30% de réduction et il peut prendre tous les spectacles qu'il veut après. Ces 5 enveloppes, la première, c'est les spectacles du directeur, puisque Daniel Benoît a la particularité d'être aussi metteur en scène. Et donc il veut pouvoir mettre à l'épreuve du public ces spectacles pour voir si il est toujours accepté, puis, parce qu'il est avant tout metteur en scène. La deuxième enveloppe, c'est l'enveloppe des spectacles très grand public théâtre avec des têtes d'affiche. Il y a une douzaine de spectacles dans cette enveloppe là. La troisième enveloppe, c'est l'enveloppe très grand public mais hors théâtre, c'est-à-dire danse, cirque, musique, opéra, avec des gens connus, avec des têtes d'affiche à nouveau. Là encore, il y a 12-14 spectacles cette année, je crois. Et puis la quatrième enveloppe, c'est l'enveloppe du théâtre hors tête d'affiche. Donc là, il y a une vingtaine de spectacles. C'est les spectacles les pépites qu'on va repérer. C'est d'ailleurs pour ça que je suis à Avignon, mais je vous le dirai. Et en théâtre. Et puis la cinquième enveloppe, c'est hors théâtre, les pépites aussi, les petites choses qu'on va moins connues en danse, cirque, musique, théâtre d'objets, marionnettes éventuellement, qui viennent composer comme ça un choix où le spectateur obligé de faire un choix parmi des genres différents et des choses plus ou moins connues. Donc aussi se laisser aller à prendre un abonnement en partageant le risque que l'on prend toujours quand on va au spectacle vivant, puisque c'est vivant, on ne sait jamais bien comment ça va se passer, de la découverte, de l'émotion, de la surprise, et on trouve que c'est très important. D'ailleurs, les spectateurs nous le rendent bien, cette confiance qu'on leur demande d'avoir avec nous, puisqu'ils prennent en moyenne 8 spectacles, pas 5, pas 6, mais 8 spectacles à l'année, et sur 15 000 abonnés, ça fait pas mal quand même.
Oui, alors moi j'aime bien dire spectacle vivant et non pas simplement théâtre ou quoi, parce que je trouve que ça représente bien ce dont il s'agit. Alors, du coup, vous êtes à Avignon. Alors, je sais que vous venez régulièrement à Avignon, mais qu'est-ce que vous venez faire à Avignon? Moi je dis toujours, il y en a qui viennent acheter, il y en a qui viennent vendre.
Alors, moi je viens surtout repérer, découvrir, rencontrer, revoir, essayer de suivre des propositions artistiques ou des artistes dont j'ai pu voir les travaux il y a un an, deux ans, ou trois ans, ou quatre ans, ou ailleurs d'ailleurs, dans d'autres festivals, à Chalon ou à Aurillac par exemple, des spectacles d'art de la rue, parce que je crois qu'il y a des choses qui se construisent dans la rue et qu'on retrouve dans les salles deux ou trois ans. Après, il y a des talents qui émergent et des nouveautés scénographiques, techniques, acrobatiques, chorégraphique qu'on retrouve dans les salles par la suite, à Avignon notamment. Et puis à Antea parfois. Mais c'est vrai que là, en fait, je viens repérer, donc je me laisse aussi porter. Et j'ai une particularité, c'est que je viens avec une bonne partie de l'équipe, enfin quasiment toute l'équipe, aussi bien la partie évidemment des relations avec le public, de la communication, mais aussi administrative, aussi des techniciens, aussi des personnes qui s'occupent du resto. Et on se répartit et on va voir des choses. On a un tableur qu'on remplit sur lequel on dit ce qu'on va voir, on met des petites appréciations, des petites notes, on encourage ou pas à aller voir, ça permet de démultiplier le regard, de leur donner une responsabilité et de se mettre et de comprendre quel est l'objectif de repérage d'un spectacle pour qui. L'important c'est pas qu'il me plaise à moi, c'est qu'il puisse plaire au public d'Antea. Et donc alors on pratique pas d'autocensure, mais on essaie d'être sensible à la façon dont le public va pouvoir le recevoir.
Et alors, oui, donc là, bon, vous êtes donc toute cette palette-là. Est-ce que vous pouvez nous citer des spectacles que vous aviez repérés à Avignon il y a un certain temps et que vous allez mettre à la programmation, ou qui est déjà à la programmation? Et puis, parce qu'on dit qu'il faut 2 ans pour faire une programmation. On dit qu'il faut 2 ans, un an et demi, 2 ans. Donc ce qu'on va retrouver dans la programmation là, c'est ce que vous avez vu l'année dernière ou il y a 2 ans. Quoi. Donc quel spectacle vous nous avez ramené en Tibes?
Alors là, il y a un spectacle auquel je tiens beaucoup qui s'appelle À l'Ouest, la compagnie Bajour, que j'avais vu, il y a 5 ans déjà, avec un autre spectacle qui s'appelait Un homme qui fume, que j'avais adoré. On n'avait pas réussi à trouver une place dans la programmation parce que voilà, il y a beaucoup de spectacles en France, hein, là, avec 1680 spectacles cette année. Nous, on en présente 78, ce qui est beaucoup, mais je dis plus souvent non que oui, hein, malheureusement. Et là, je les ai vus l'an dernier avec leur spectacle À l'Ouest, où j'étais emballé. Et donc, j'ai pu le mettre dans la programmation. Donc, il sera en octobre en théâtre prochain. Et on est très content de les avoir. Et d'ailleurs, ils ont une autre forme qui est proposée à la manufacture le matin, que je vais aller voir demain ou après-demain, pour la suite, éventuellement, parce que c'est vachement intéressant d'avoir une fidélité avec les artistes aussi, de suivre un propos quand c'est intéressant, quand c'est confirmé qu'il y a une validité artistique, évidemment. Et autre exemple, alors complètement différent, il y a Écube, par exemple, pas Écube dans la carrière de Boulbon en ce moment. Alors c'est un spectacle qu'on reçoit l'an prochain. Alors là, c'est différent parce que il a été créé ici, donc on n'a pas pu le voir avant de le programmer. Mais voilà, il y a des correspondances qui sont aussi de cet ordre-là. Et puis il y a d'autres choses qui se passent, c'est que il y a des spectacles qui sont créés en théâtre, le collectif Fuite ou les collectionneurs, par exemple, qui jouent en ce moment à Avignon. Donc on va voir les copains aussi. C'est des spectacles qui sont labellisés en théâtre, notamment, hein, puisqu'ils ont coproduit. Et on est très content de savoir que 1984, par exemple, vient d'avoir une reconnaissance qui fait qu'il va être programmé à Paris la saison prochaine et certainement porté par la Scala Provence pour le spectacle qu'ils ont créé cette année à Antibes. Donc on est vachement content. Les collectionneurs, eux, c'est le spectacle itinérant qu'on faisait tourner dans les écoles et les établissements publics scolaires qui jouent en extérieur et qui connaît un franc succès aussi. Donc on est vachement, voilà, vous savez, c'est une histoire de suivi, de fidélité, d'appui, de repérage, de découverte, de connexion, et puis on croise des collègues autres que ceux du théâtre, en théâtre, et on échange, on se dit alors qu'est-ce que tu as vu de bien, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'il faut aller. Et là, par exemple, j'ai vu un spectacle qui s'appelle Parler pointu à la manufacture, ou au 11 dans la manufacture, que j'ai beaucoup aimé, et j'espère bien qu'on va pouvoir le programmer l'an prochain, par exemple.
Voilà, donc en fait, c'est dans les deux sens, quoi. Vous venez repérer, essayer de récupérer des spectacles, parce que c'est pas évident, il y a tellement de monde et de... Voilà, en fait, encore, mais les troupes, quand même, elles cherchent à contacter des producteurs, des gens qui organisent des tournées, parce que il y a le gros problème sur les petites troupes, hein, c'est compliqué.
Ah ouais, c'est sûr, évidemment. On a la chance, nous, quand c'est des petites formes, de pouvoir faire des séries dans la petite salle, donc de les accueillir une semaine, et ça leur permet de jouer 4, 5, 6 fois, puis si ça joue en temps scolaire également, alors ça peut carrément doubler le nombre de représentations à la semaine. Et de proposer ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait qu'un spectacle, d'après les statistiques du ministère, hein, joue 4 ou 5 fois, ce qui est en moyenne, ce qui est catastrophique, parce que il faut vraiment, pour éprouver un spectacle, il faut qu'il soit joué 10 ou 15 fois avant qu'il trouve sa vitesse de croisière. Donc là, si on n'arrive pas à ça, on passe à côté de quelque chose, évidemment.
Et puis l'investissement pour 3-4 fois, c'est un peu dommage. Et vous avez aussi des troupes ou des acteurs en résidence, donc vous en avez récupéré à Avignon ?
Alors,
repérer.
Alors, non, oui et non, enfin, pas directement, parce que le travail de résidence, il se fait, et de travail de coproduction, il se fait sur du plus long terme. Il faut vraiment connaître la compagnie, il faut qu'il y ait une confiance qui se développe, c'est une connivence artistique et humaine, hein, d'ailleurs aussi, hein, disons-le, parce qu'on a envie de travailler avec des gens avec lesquels qui sont sympas aussi, hein. C'est vachement important, et puis je trouve que ça se sent régulièrement dans le travail, dans le rendu du travail après. Et donc là, j'ai pas de nom comme ça de personnes qu'on aurait découvert au Festival d'Avignon, avec lesquelles si, peut-être Sébastien Valignat, qui vient avec un spectacle l'an prochain qui s'appelle L'art d'avoir toujours raison. C'est pour les politiques, en fait. C'est un dépeçage du discours politique pour trouver comment ils s'en sortent pour dire toujours des trucs qui semblent convenir à tout le monde, quoi. Voilà.
Il faudrait que je vienne, parce qu'il faudrait que j'apprenne, non? C'est ça.
Tout le monde. monde. Je crois pas que c'est important que tout le monde le voit, ce spectacle, hein, pour le
d'accord,
coup.
Je le note.
Et eux, ce sont des Lyonnais, cette compagnie, la compagnie Cassandre. D'accord. Et donc voilà, c'est des gens qu'on avait rencontrés ici à Avignon.
Alors, deux mots sur la nouvelle saison quand même. Bien sûr. Donc on a parlé des cubes. Moi, je l'ai vu à la carrière et je vais le recommander. Mais j'avais quand même une interrogation parce que je me dis... La carrière, c'est exceptionnel, quoi. Comment c'est transposé dans une salle fermée et les mêmes acteurs ?
Alors oui, alors ça c'est en effet les cubes, la comédie française mise en scène par Thiago Rodriguez, le directeur du Festival d'Avignon. On est très content. On sait que l'écriture de Thiago est très efficace. On sait que les acteurs de la comédie française sont des très bons comédiens, bien sûr. Et on était évidemment nous quand on a été au courant, puisque le spectacle à part être joué à Paris, il va être joué dans trois villes en France. Nous, la condition sine qua non, c'est évidemment que ce soit les acteurs d'origine de la comédie française, Podalydès et les autres qui soient présents sur scène à Antea. Et c'est l'assurance qu'on a eue. Ça, on s'en assure, parce que c'est pas ça. On peut avoir des changements de distribution au gré des tournées.
Et oui, ça, c'est pour ça que je posais la question, parce que suivant les tournées, c'est pas forcément les mêmes acteurs. Et là, moi, je me suis dit en voyant la scène que c'est bon, qu'il y a le lieu, mais il y a aussi les acteurs, et que je me demandais si avec d'autres acteurs, ça rendrait sûrement pas pareil, quoi. Voilà.
Oui, non, mais on s'est assuré que ce soit bien les acteurs d'origine. Et puis après, c'est une très bonne question sur l'adaptation, parce que la Guerre de Boulbon, c'est un lieu mythique, énorme, et absolument, malheureusement, on a une très très grande salle, une très très grande scène, mais on n'a pas, c'est une des plus grandes de la région sud, hein, mais ce n'est pas la taille de la carrière Boulbon, mais c'est ce qui est prévu par le metteur en scène dès le départ, c'est qu'il y ait une adaptation possible en salle pour que ça puisse être présenté, évidemment, aussi bien à la Comédie Française d'ailleurs que Antea, ou je crois qu'ils vont en Espagne et en Italie également, dans des salles très prestigieuses.
Oui, j'ai vu le programme. Encore une pièce que vous souhaitez citer là pour nos auditeurs, donner rendez-vous.
Ah, dans ce que j'ai vu, c'est marrant parce que le premier truc qui me vient, c'est un spectacle que j'ai vu à Chalon-sur-Saône, puisque je suis parti deux jours à Chalon la semaine dernière pour voir ce spectacle du Festival d'Art de la Rue, et j'ai vu un spectacle que je vais essayer de faire venir à Antea qui s'appelle Playback FM, qui est un jeune homme qui raconte 30 ans, qui raconte comment la radio et les médias ont forgé son art de prendre de prendre la parole et de s'exprimer, et pour ça il a fait une sélection de choses mythiques, politiques, humoristiques, artistiques, qu'on a tous en tête, hein, et il fait du playback en jouant le personnage, et c'est troublant, fantastique, incroyablement bien fait, c'est pile poil, c'est millimétré, c'est une heure où on est étonné, épaté, on rigole, enfin c'est vraiment une super... Et puis on se rappelle plein de choses de notre culture commune médiatique française, et je trouve que c'est vachement intéressant sur les 20-30 dernières années.
Donc ça, on l'aura pas 2024-25, mais l'année d'après, 25, sans doute.
25-26,
voilà.
Ah bah oui, là, on est encore.
Et oui, mais c'est ce que je disais, il faut deux ans, quoi.
Ouais,
voilà.
C'est ça.
Et bien, Vincent, merci beaucoup, et puis bon festival.
Oui, avec plaisir, merci Michel.
Cette maison, c'est le lieu de mon repos. Elle donne sur la rue pourtant, face au bistrot. Un peu plus loin, la pharmacie, le groupe scolaire du village, et tous ces gens qui passent, ils n'ont pas vraiment d'âge. Il est un étang aussi, là-bas, quand j'ouvre grand la fenêtre du salon, j'y salue les eaux calmes chaque matin. Et les eaux calmes me répondent, et je me sens revivre, tiens. Elles me rappellent tes caresses, tes baisers. Alors, je peux démarrer ma journée. Je brûle de mille feux, je brûle de mille feux. Pierre blanche, d'où l'on observe les souvenirs de l'enfance et de la grande adolescence. Je n'avais pas conscience des détours qu'il faudrait prendre, et peu importe. Tout au bout, je savais le plaisir, les voyages, un baiser. Alors, je peux démarrer ma journée.
Peut-être, je te le dis alors. Pour toi, souvent, je suis comme dans un grand brasier. À la simple évocation de ton nom, de tes yeux, je brûle. Je brûle, peut-être, que je suis amoureux. Amoureux, je ne sais pas, je ne sais plus. De toute façon, je ne te le dirai pas. Pour ne pas t'effrayer, pour ne pas m'effrayer aussi. Mais je brûle, je danse pour toi. Je ne me lasse plus d'être moi. Je brûle, je brûle, je brûle. De mille feux, je brûle.
Rencontre, Emmanuelle Bourré, directrice du Théâtre de Grasse. Bonjour Emmanuelle.
Alors, bonjour.
Voilà, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter ?
Eh bien, oui, je suis donc la directrice du Théâtre de Grasse dans les Alpes-Maritimes depuis 2 ans maintenant. Le Théâtre de Grasse, c'est un théâtre qui a 25 ans d'existence, voire même 30. C'est une scène conventionnée d'intérêt national dont nous sommes en train d'ailleurs de renouveler l'appellation. C'est un lieu où nous accueillons des artistes en diffusion, de spectacles vivants, théâtre, danse, cirque, musique. C'est un lieu aussi de soutien à la création, avec pas mal d'artistes qui sont accueillis en résidence et que nous aidons, nous accompagnons dans leurs projets de création. Et c'est aussi un lieu important concernant ce qu'on appelle l'éducation artistique et culturelle.
Que représente pour vous Avignon ? Qu'est-ce que ça signifie de venir à Avignon ? Pourquoi vous venez ? Qu'est-ce que c'est pour vous Avignon ?
Alors le Festival d'Avignon, bah, écoutez, c'est le temple du théâtre. C'est ce grand rendez-vous annuel extraordinaire, unique au monde, hein, des professionnels du spectacle vivant, avec la possibilité donc de découvrir beaucoup d'artistes, notamment de jeunes artistes, beaucoup d'artistes internationaux aussi. Dans la programmation du nouveau directeur Thiago Rodriguez, c'est tout à fait présent. Et puis oui, c'est une grande fête, c'est une ambiance aussi à Avignon. Voilà, donc c'est à la fois l'utile et l'agréable pour moi, hein, le professionnel, mais aussi voilà, j'en profite comme tout le monde peut en profiter quand il vient.
Alors moi je dis toujours, à Avignon, il y en a qui viennent acheter des spectacles, il y en a qui viennent vendre. Par rapport au Théâtre de Grasse, disons que vous vous situez dans les deux, bon, vous venez plus pour découvrir et pour ramener dans votre programmation, ou bien vous allez, comme vous avez des créations, proposer aussi des spectacles.
Alors écoutez, c'est vrai que moi ce terme, ce côté marché du spectacle, c'est pas forcément, même si on peut voir bien sûr le festival ainsi, mais c'est avant tout un lieu de rencontre, plus que d'achat. Mais effectivement, je viens pour découvrir, ça c'est sûr, avant tout. Mais il y a aussi des artistes, par exemple, que je soutiens, dont je suis partenaire de création et dont j'essaye aussi d'accompagner le temps qu'ils peuvent, cette vitrine que peut leur faire le Festival d'Avignon. Donc, mais principalement, je ne suis pas du côté effectivement des producteurs ou des compagnies qui viennent montrer leur spectacle. Je suis plutôt du côté de ceux qui vont les découvrir et en retenir certains pour des futures programmations.
Alors, est-ce que vous pouvez nous citer quelques, pas forcément cette année, là maintenant, mais des années précédentes, des pièces qui vous ont fait tilt et que vous avez mises dans votre programmation?
Ah ben si, je peux même citer des pièces qui vont être dans la saison à venir là, du théâtre, que j'ai découvertes à Avignon. Par exemple, cette pièce qui s'intitule La vie en vrai avec Anne Sylvestre. Donc c'est un hommage magnifique à la chanteuse et autrice qui était Anne Sylvestre par deux jeunes artistes, une pianiste et une comédienne et metteuse en scène, Marie Fortuit, donc qu'on aura en mars prochain dans la programmation. Donc ça, je l'ai découvert à Avignon. J'ai aussi découvert un spectacle qui s'appelle Tous les poètes habitent Valparaiso, de la compagnie suisse Super Trotop. Donc une magnifique enquête haletante sur l'histoire d'un auteur chilien. Voilà, donc deux exemples de spectacles que j'ai découverts à Avignon.
Et les artistes que vous recevez donc en résidence, que vous accompagnez, ont des représentations sur Avignon? Ils viennent avec vous? Comment ça se passe?
Certains arrivent à organiser une diffusion à Avignon. C'est très très compliqué pour les artistes. C'est très souvent très coûteux. C'est un pari important qu'ils font quand ils misent sur ce festival. Donc il y a de multiples conditions possibles selon les lieux dans lesquels ils vont être diffusés. Mais effectivement, quand ça marche, c'est un beau tremplin, quoi.
Alors, un autre artiste que vous accompagnez, qui fait sa route, son chemin à partir de Grasse, je dirais.
Alors, à partir de Grasse, pas seulement, parce qu'un artiste fait son chemin avec plusieurs partenaires pour monter un projet de création, et nous sommes partenaires, l'un des partenaires de l'artiste metteur en scène, auteur, qui s'appelle Paul Pascot, dont nous accueillons cette saison une résidence pour sa pièce qui s'intitulera La Faille et qui sera présentée au Théâtre des Halles à Avignon en juillet prochain, donc qui sera créé même à ce moment-là, donc ce sera un moment important.
Donc vous préparez déjà Avignon 2025, si je comprends bien.
Ah oui, oui, oui.
Encore à côté sur. Alors à Avignon, on rencontre aussi des gens que l'on connaît. Michel, que tu vas te présenter d'abord.
Bonjour, Michel. Je suis Michel Ray, adjoint à la culture à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique.
Alors, et qu'est-ce que tu fais là, à Avignon? Tu n'es ni acteur, ni metteur en scène, ni rien de tout ça. Donc, qu'est-ce que tu fais à Avignon?
Mais je suis avec quelques-unes et quelques-uns présents aux rencontres d'Avignon qui sont organisées donc chaque année et qui est l'occasion de nous retrouver, nous, élus de la culture, soit à l'échelle municipale ou intercommunale, milieu rural, milieu urbain, de partout en France. On se retrouve pour échanger sur les enjeux qui animent et nos délégations et qui animent les politiques culturelles au plan national.
Bon, en même temps, tu profites aussi un petit peu d'Avignon quand même.
Et bien évidemment, en marge de nos rencontres, qui sont d'ailleurs le prétexte à beaucoup de visites sur le terrain, comme tout bon festivalier, je profite du festival et de la programmation in et off.
Alors, il y a des troupes locales, là, Saint-Nazaire, il y a des troupes locales que tu vas voir? Tu profites aussi pour des rencontres?
Malheureusement, non. Il y avait jusqu'à une époque très récente la région Pays de la Loire, auquel bien sûr la Loire-Atlantique est rattachée, qui organisait au Grenier à Grains euh, un, un espace ressource, un espace de rencontre qui mettait en valeur les compagnies spectacles vivants, toutes esthétiques, tous domaines confondus, à l'honneur à l'occasion du Festival d'Avignon. J'en parle au passé puisque c'est une initiative qui malheureusement n'existe plus. Donc je ne suis pas moi directement informé des compagnies Loire-Atlantiennes ou Pays de la Loire ligériennes présentes au festival, mais bien évidemment elles sont là avec leurs propres moyens et cette année j'en ai pas vu, mais je sais qu'elles sont au rendez-vous d'Avignon.
Et on me disait dans mes rencontres qu'en fait ça coûtait de plus en plus cher à une troupe de venir à Avignon, à une compagnie de venir à Avignon, et que du coup ça limitait un petit peu. Donc le fait qu'ils viennent plus, c'est aussi peut-être lié au coût. Comment supporter le coût de... Ça dure un mois quand même.
Ça dure un mois. Il ne faut jamais perdre de vue que Avignon, c'est d'abord un salon professionnel. C'est le rendez-vous du spectacle vivant. C'est là où les compagnies petites, moyennes et prestigieuses grandes compagnies viennent présenter leur travail dans un but bien évidemment de partager leur création, mais aussi tout simplement de façon plus pratique de vendre leur spectacle aux programmateurs et aux programmatrices qui viennent très nombreuses. Par exemple pour Saint-Nazaire, je sais que sont présents ici la directrice et son adjoint de notre scène nationale pour commencer à prendre quelques contacts en vue de travailler des programmations futures pour les prochaines saison.
Oui, moi je dis toujours, il y en a qui viennent acheter, il y en a qui viennent vendre, il y en a qui font aussi un peu les deux, parce qu'ils ont des productions aussi à présenter. Alors, sur le job, j'allais dire, d'adjoint à la culture, donc comment, dans une ville comme Saint-Nazaire, combien d'habitants Saint-Nazaire ?
Alors Saint-Nazaire, c'est une ville-centre de 72 000 habitants, ville-centre d'une aglo, donc composée de 10 communes, une intercommunalité qui regroupe à peu près 130 000 habitants.
Donc l'activité culturelle, elle s'étale sur l'ensemble de l'agglo, j'imagine, et pas simplement sur le centre-ville de Saint-Nazaire.
Alors, à l'échelle de l'agglo, nous avons quelques dossiers culturels, mais nous n'avons pas de compétences culturelles en propre. Nous avons, et on l'a évoqué d'ailleurs de façon très intéressante l'autre jour lors de nos rencontres d'Avignon, les projets culturels de territoire, les PCT, qui sont des outils partenariaux qui associent l'État, le département et pour nous donc l'agglo sur le financement d'un programme de développement culturel à l'échelle intercommunale, ce qui nous permet, et moi je trouve que c'est très intéressant, de pouvoir accompagner les structures de centralité, un théâtre ici, un centre d'art contemporain labellisé là, une salle de musiques actuelles aussi, qui sont des équipements nazériens, et bien de pouvoir rayonner à l'échelle de l'agglo grâce effectivement à ce PCT.
D'accord. Et alors, en tant qu'adjoint, ce qui m'intéresserait, c'est la relation donc, de l'adjoint à la culture avec les acteurs de la culture. Il y a des communes où ils ont fait les états généraux de la culture. Voilà. Comment ça s'organise ? Il y a des rencontres organisées ou c'est au coup par coup ? Si tu veux, ma question, c'est il y a des communes où on donne une subvention, débrouillez-vous. C'est très bien. Et puis, il y a des communes où on organise, on travaille avec les acteurs de la culture. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est de savoir comment toi, tu travailles.
Alors, effectivement, nous avons poussé un peu plus loin la démarche, dans le sens que tu viens d'indiquer, c'est-à-dire que nous d'abord, moi je suis adjoint à la culture depuis 4 ans, depuis le début du mandat, donc c'est encore une délégation, bon maintenant je la domine un peu mieux, mais qui est somme toute assez nouvelle pour moi, et je travaille à l'appui d'une délibération cadre que mon prédécesseur avait fait et proposé, présenté, fait voter en conseil municipal en de mémoire 2017. Cette délibération cadre, elle fixe un certain nombre d'orientations et moi je m'appuie vraiment sur ces orientations. Cette délibération cadre, elle est le résultat d'un travail en effet d'états généraux des acteurs de la culture qui s'était déroulé de mémoire de 2015 à 2017 pendant 2 ans où il y avait eu des rencontres. Mon prédécesseur avait souhaité donner la parole aux acteurs culturels institutionnel et puis bien évidemment au tissu associatif qui est très, très foisonnant à Saint-Nazaire pour essayer de bien comprendre un petit peu ce qui les animait, les enjeux et puis peut-être, cerner un peu plus précisément les besoins. Donc cette délibération cadre, elle s'organise autour de 5 axes, alors je ne vais pas les citer parce que je ne les ai pas de mémoire, mais en gros, qui s'intéresse aux pratiques amateurs et aux pratiques et aux enseignements artistiques. Nous avons un conservatoire, un élément départemental, une école des beaux-arts, qui s'intéresse à la diffusion, toutes esthétiques confondues, le spectacle vivant, mais aussi diffusion sur le champ des arts visuels, des musiques actuelles également, qui s'intéresse à l'art dans l'espace public, aux arts visuels, et puis également qui s'intéresse, ça rejoint la question que tu poses, à la manière de pouvoir dialoguer avec les acteurs culturels et de faire en sorte qu'on soit sur une politique qui se nourrit bien en réalité des attendus, des préoccupations du moment des acteurs culturels. Et donc pour cela, on se donne rendez-vous une fois par an avec les acteurs culturels, mais avec la présence du grand public. Ça, on y tient beaucoup. Donc une réunion thématique où toutes les nazériennes et les nazériens sont invités, ainsi que les acteurs culturels, à débattre sur des grands sujets. Et ça, c'est un rendez-vous qu'on tient à l'automne, chaque année, au cours d'une soirée. Et on choisit des thématiques, l'enseignement artistique et culturel, les pratiques, amateurs, que sais-je encore, pour qu'on instaure un petit peu ce dialogue. Et moi, en tant qu'élu, j'essaie d'en tirer un petit peu des enjeux et puis des axes pour travailler sur l'année qui suit.
C'est toi qui es à l'origine de projets aussi, ou bien c'est simplement les compagnies, les acteurs locaux qui viennent présenter, qui viennent te voir et te dire on a un projet, accompagnez-nous. Il y a les deux, je suppose.
Non. Alors, ça, c'est un choix très personnel. Moi, je ne suis pas programmateur. Je n'ai pas envie d'être dans cette logique qui pourrait passer pour être le fait du prince. Moi, mon propos, c'est en tant qu'élu, je défends bien évidemment un point de vue et un parti pris d'une culture émancipatrice et accessible au plus grand nombre. Voilà, ça c'est mon mantra. Après, dans les déclinaisons et dans les contenus, je fais confiance entièrement et pleinement à partir de ce cahier des charges, je fais confiance aux acteurs. À partir de là, effectivement, la collaboration que je peux avoir à la fois avec les acteurs institutionnels, nous avons 5 labels en matière culturelle à Saint-Nazaire, labels d'État. Si je les rappelle, sur le patrimoine, nous avons un label Ville d'Art et Histoire. Sur le spectacle vivant, donc une SMAC, scène des musiques actuelles. Un label scène nationale, bien évidemment, avec notre théâtre Simone Veil. Et puis, nous avons également un CASSIN, un centre d'art contemporain d'intérêt national. Et enfin, nous avons le label CNCM, Centre National de Création Musicale. C'est un petit label, mais auquel on tient beaucoup. Qui permet donc à une structure nazérienne de travailler la question de la création sonore.
Et donc les acteurs, le paysage des acteurs locaux, il y a donc les théâtres, des scènes importantes, les théâtres, tout ça. Et il y a beaucoup de compagnies, petites compagnies, il y a beaucoup de théâtres amateurs aussi, parce que ce qui est intéressant, c'est, et ça c'est le politique qui peut l'initier, le lien, l'amateur, les enfants, enfin, donc tout ça, comment ça s'organise un peu.
Alors, sur la question de la pratique amateur, en effet, nous avons une enveloppe de subventions au projet et de subventions au fonctionnement pour les pratiques amateurs artistiques tous azimuts. Ça va être de la danse, ça va être bien évidemment le chant choral, avec beaucoup de chorales, la pratique des arts visuels, etc., etc., la pratique des musiques actuelles. On a donc ces subventions qui viennent soutenir et à la fois les structures dans leur fonctionnement et leurs projets. Pour répondre très directement à ta question, nous avons un tissu associatif qui est très investi sur les différents champs de pratiques amateurs directeur artistique. Donc le soutien, il est là. Après, ce sont aussi des acteurs sur lesquels on va se reposer par rapport à des priorités que moi j'ai fixées. Par exemple, une des priorités, c'est l'éducation artistique et culturelle, l'EAC, où nous avons nos 20 écoles publiques nazériennes, mais aussi quelques-unes des 8 écoles privées nazériennes qui viennent émarger sur des fonds mis à disposition par la ville ou l'agglo pour développer des programmes sur le premier, deuxième et troisième cycle élémentaire, des programmes d'action d'EAC. Et beaucoup de ces associations qu'on subventionne par ailleurs peuvent également émarger sur ce dispositif.
Parce que ce qu'est l'EAC, bon, c'est très intéressant. Moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a un peu une coupure. Le gamin, il a deux heures d'activité culturelle, disons, et puis après, il n'y a plus rien. Donc c'est intéressant, c'est si on peut, au niveau de la commune, construire un après avec des acteurs qui, en fait, prennent un peu le relais, quoi. Le gamin, il a eu deux heures de musique, et après.
Alors, d'abord, l'objectif de l'EAC, c'est quoi ? C'est de permettre à tous les élèves, en l'occurrence de Saint-Nazaire, de pouvoir vivre une expérience artistique. C'est ça le sujet. Pourquoi ? Parce qu'on considère l'art est un moyen d'émancipation, est un moyen d'épanouissement, est un moyen de construction et de se façonner un sens critique. Donc on sait que l'art, de ce point de vue-là, est sans doute un des outils les plus efficaces, les plus intéressants. C'est ça le parti pris hein, que nous avons en soutenant de façon très volontariste et très fort l'EAC. Alors, bien évidemment, quand on propose cette rencontre auprès de tous les élèves, le meilleur outil, ça reste l'école. On a la chance d'avoir des équipes enseignantes dans les 20 groupes scolaires partantes et qui se sont bien appropriées depuis nombreuses années cet outil. La question que tu poses, elle est très intéressante, c'est-à-dire qu'une fois effectivement ce travail est fait au sein sur le temps scolaire, qu'en est-il après, qu'est-ce qu'il en reste et comment on peut le déployer sur le temps extrascolaire. Et ça, c'est un autre sujet. Alors, on a quelques acteurs qui interviennent sur le temps extrascolaire, je pense notamment au périscolaire, au centre de loisirs, qui s'approprient parfois ces propositions EAC, sans doute pas suffisamment à mon goût. On a après tout simplement des familles qui transforment l'essai et qui inscrivent l'enfant sur le conservatoire ou à l'école, sur les cours amateurs à l'école des Beaux-Arts. Ça se fait de façon très, très modeste, mais ça se fait. Après, moi j'ai une conviction qui est très personnelle. Je crois que cette opportunité qu'on donne à tous les enfants de vivre une expérience artistique, il en reste toujours quelque chose. Particulièrement quand cette expérience elle a lieu au plus jeune âge. L'éveil d'une émotion, la rencontre avec des formes qui ne sont pas familières à un environnement, c'est quelque chose qui, de mon point de vue, est très fécond.
Eh ben merci Michel, et puis bon séjour à Avignon.
Merci Michel.
Eh bien, je remercie tous les intervenants qui ont accepté donc de me répondre, de passer un peu de temps, et je donne rendez-vous l'année prochaine pour d'autres rencontres au Festival d'Avignon.